France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Grand brigandage en Italie, les revers de l'unification. Le site Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, nous offre des fonctionnalités remarquables. Par exemple, il est possible de chercher des mots proches les uns des autres dans l'immensité des publications accessibles gratuitement en ligne. Tapons brigand italien à une distance maximale de seulement deux mots. Et ce sont des centaines de résultats qui surgissent en à peine une seconde, des livres, la presse, pourquoi pas des images, car le bandit italien est une grande figure du 19e siècle, personnage incontournable de l'unité italienne, direction le sud de l'Italie.
Les trois bandits de Napoli, tout doucement ils descendaient de la montagne. Pour aller au ravitaillement, car pardi au bout d'un moment, maquait la faim et le voûtenaille, les entrailles. Le plus petit marchait devant, car le pays il est infesté de gendarmes. Au moindre bruit, au moindre vent, on l'entendait claquer des dents. C'était sa façon de donner l'alarme. Pi-pom.
Les trois bandits de Napoli par Annie Cordy dans le cours de l'histoire. Un plaisir pour ouvrir cette émission avec vous, Gilles Pécou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais président de la Bibliothèque nationale de France. Et avec vous, ainsi qu'avec Simon Sarlin, nous allons parler des brigands italiens. Bonjour Simon Sarlin.
Bonjour.
Vous êtes historien également, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Cette figure du bandit italien qui va nous intéresser, c'est particulièrement celle des années 1860. Il se passe quelque chose à ce moment-là, mais pour comprendre cette intensité et ce phénomène, faut remonter un peu en arrière. Gilles Pécou, cette figure du brigand, du bandit italien, ça traverse le siècle, mais presque depuis le 18e siècle, il est déjà présent.
Mais oui, le grand banditisme méridional politique et militaire, nous le verrons, c'est vrai, elle date du début des années 1860. Mais la figure littéraire, la figure du bandit et du bandit italien, du bandit méditerranéen, elle devance celle du grand brigand des années 1860. Le bandit, la figure du bandit est une figure de l'Europe romantique, de l'Europe méditerranéenne romantique. Voilà qu'à la fin du 18e et jusque dans la première moitié du 19e se développe cette figure d'un bandit qui est un bandit d'honneur, d'un bandit qui est un bandit amoureux, d'un bandit qui est un bandit qui combat pour la liberté et d'un bandit qui, dans tous les cas, est présent sur tous les rivages de la Méditerranée. Le bandit que nous allons chercher dans le sud de l'Italie, nous le trouvons déjà sous la forme ou la figure du bandit corse. Nous le trouvons en Grèce, avec le cleft et l'armatode. Donc, il y a réellement un ethnotype littéraire du bandit qui se développe et qui est porté par la littérature. Alexandre Dumas, nous y reviendrons sans doute, pour le bandit du sud de l'Italie, du sud du Latium, de Sicile, de Campanie. Berlioz, on se le rappelle aussi, qu'il y a ce magnifique passage sur les bandits dans sa symphonie italienne. Énormément de sources littéraires nous rappellent que le bandit est là. La question que l'on doit se poser, c'est comment se transforme ce bandit romantique, ce bandit d'amour, ce bandit d'honneur que l'on voit avec Luigi Vampa dans le Comte de Monte Cristo, que l'on voit avec Carlini, qui préfère assassiner sa propre femme plutôt que la voir souillée par d'autres. Comment se transforme cette figure du bandit en bandit politique ?
Simon Sarlin, il est bon, Gilles Pécou, parce qu'il nous pose la problématique ici. C'est vrai, la transformation du bandit romantique, qui est une figure stéréotypée, on a évoqué la littérature, mais stéréotypée au point qu'on le reconnaît, mais d'un simple coup d'œil, il ressemble à quoi ce bandit-là ?
Alors, si vous parlez du brigand tel qu'on le trouve dans l'Italie du Sud, on a effectivement quelque chose qui correspond ou qu'on lit en rapport avec ces stéréotypes qu'on a, en rappelant aussi que cette figure du brigand, elle est ambiguë. Elle est caractérisée par l'ambiguïté. C'est un personnage qui est à la fois fascinant, dont on va souligner des capacités ou des qualités physiques, personnelles, qui vont aller du côté de l'héroïsme, du charisme, de l'esprit d'aventure, puisqu'il y a aussi tout cet aspect romantique dans la lecture du brigand. Mais qui a aussi des aspects négatifs, qui sont liés à la violence, voire à une violence déchaînée, et qui sont en fait aussi consubstantiels de ce que c'est que concrètement être brigand et être à la tête d'une bande armée qui mène des actions qui sont à la frontière entre la criminalité et l'action politique, et qui fait qu'on va retrouver effectivement chez ces brigands, alors d'ailleurs des brigands, donc du grand brigandage, c'est très souvent aussi des brigands tout court. Il y a une continuité dans les parcours biographiques entre des personnes qui ont déjà des activités de brigandage avant l'unité et qui vont s'engager dans la lutte contre l'État unitaire, parfois en passant d'ailleurs par la révolte libérale pour l'unité, et qui vont mettre à profit donc des expériences aussi et jouer de cet imaginaire pour construire une capacité d'action et aussi un discours politique qu'il ne faut pas négliger autour de leur action.
Oui, voilà, ce ne sont pas simplement des voleurs.
Le bon exemple, au début du XIXe siècle, c'est le bandit napolitain Fra Diavolo, qui a d'ailleurs été illustré au cinéma jusqu'au XXe siècle. Fra Diavolo est un vrai bandit, on dirait un délinquant. Simplement, Fra Diavolo, au début du XIXe siècle, est utilisé par tous ceux qui veulent lutter contre la présence française, la présence napoléonienne dans les États de Naples. Le cardinal Ruffo, le premier, utilise Fra Diavolo. Et Fra Diavolo, comme cela vient d'être dit par Simon Sarlin, Fra Diavolo, qui est un bandit, un délinquant, dirait-on, devient un défenseur de la liberté des Napolitains contre les Français. Et l'un des plus illustres généraux de Napoléon est envoyé pour combattre Fra Diavolo, puisque c'est le père de Victor Hugo, le général Léopold Hugo, va dans les États de Naples pour combattre Fra Diavolo, qu'il considère comme un délinquant, mais qu'il considère aussi comme un ennemi politique, dont la figure ambiguë, ambivalente, qu'évoquait à l'instant Simon Sarlin, elle ne date pas des années 1860, nous la voyons déjà camper le personnage du bandit, du brigand italien, qui a un long chapeau pointu, une houppelande, qui est en même temps portraituré de façon très stéréotypée, hein, également, entre le costume du berger et le costume du cheminot, de la personne qui parcourt les chemins de traverse, mais qui aussi est armé. Vous l'avez dit, Simon, la caractéristique première du brigand, c'est qu'il manie des armes et qu'il les manie en groupe, en bande.
Alors, effectivement, ce brigandage, il ne naît pas en 1860. Alors, il faudra déconstruire d'ailleurs ce terme de brigandage pour qualifier ce qui se passe dans les années 1860. Mais dans l'appellation même qu'on retient en Italie de grand brigandage pour désigner cette période, souligne à la fois le caractère exceptionnel de ce qui se passe et aussi la continuité avec des choses qui se sont passées avant. Et là-dessus, je voudrais dire qu'on peut passer cette continuité sur trois plans. Alors, je m'excuse de développer un petit peu. Alors, il y a la continuité avec un phénomène de criminalité qu'on retrouve dans l'Italie du Sud, dans les décennies précédentes, mais ailleurs en Italie, et on voudrait dire ailleurs dans l'Europe méridionale, qui est liée à des conditions socio-économiques, au caractère un peu endémique de ce brigandage dans ces sociétés, dont vous avez sans doute beaucoup parlé au cours de la semaine. Il y a aussi le fait que régulièrement, ce brigandage connaît des explosions à l'occasion de crises. Et ce brigandage sert aussi souvent de véhicule à des formes de protestation populaire. On voit ça pour l'Italie du Sud déjà, donc à la fin du XVIIIe siècle, en 1799, avec l'installation de la République, et après 1806 et l'occupation napoléonienne. Même s'il faut prendre des distances avec cette idée du brigand redresseur de tort justicier. Il y a aussi une continuité, une dernière continuité qu'on pourrait souligner justement dans le fait que les États répriment le brigandage. C'est une constante, parce que ça remet en cause leur autorité et leur légitimité, parce qu'il y a aussi une peur de la rencontre entre les brigands et les oppositions politiques. Et là, il y a une véritable continuité. Vous citiez le cas du général Manès, donc, qui se fait un nom dans la répression du brigandage au service de Murat, donc au début du 19e siècle. Et Manès, en fait, va faire partie de ces officiers qui sont confirmés par les Bourbons de Naples après la Restauration, à qui on va confier donc une mission de répression du brigandage. Il faut rappeler que les Bourbons de Naples, avant de se servir du brigandage, ont violemment réprimer le brigandage, et en 1816, alors qu'ils doivent leur trône en partie à la révolte de brigandage, vont se lancer dans une vaste campagne militaire pour éradiquer le brigandage et vont adopter des mesures législatives, notamment avec une loi de 1821 pour la répression du brigandage et de la criminalité, on pourra discuter aussi de ce lien entre les deux, qui contient des dispositions qui sont très violentes, peine de mort pour les brigands et leur soutien, justice d'exception, justice militaire, récompense pour tout brigand qui pourra être tué, dont on va retrouver des traces ensuite, des continuités avec ce qui va se passer après 1861, ce que va faire l'État italien. Et en 1859, donc on est juste avant l'unité italienne, le roi François II mène une activité, lance une autre campagne en Calabre avec à peu près les mêmes ressorts. Donc ces continuités, elles sont frappantes et elles se font sur tous ces plans-là.
Là, nous sommes clairement dans une situation où, de toute façon, ce qui importe, c'est le maintien de l'ordre. Qu'il soit d'ailleurs urbain comme rural, parce que l'arsenal juridique que vous évoquez, au début, ne fait pas la différence entre la répression de l'insubordination urbaine, les lazzaroni, c'est une tradition, on a plein l'insubordination urbaine, et l'insubordination rurale, sauf qu'ensuite, il s'agit d'assurer l'autorité dans les provinces, loin de la capitale. Et ça, c'est une dynamique que l'on retrouvera après 1860. C'est la même chose. Il s'agit d'assurer l'autorité loin de l'ordre, pardon, le maintien de l'ordre, loin de la capitale et loin de l'endroit où se situe l'épicentre du pouvoir politique et militaire. L'insubordination, l'agitation, le soulèvement des brigands, c'est un soulèvement social, bien sûr, mais comme cela vient d'être dit, c'est un soulèvement anti-étatique. Anti-étatique. Après les années 1860, il devient anti-unitaire parce que l'État, c'est l'État unifié. Et donc, on retrouve les ingrédients classiques, anti-fiscalisme, donc contre la fiscalité, et surtout anti-conscription. Et c'est ce qui mettra d'ailleurs le feu aux poudres, c'est la loi de conscription de l'État nouveau piémontais.
On comprend que ces années 1860 sont particulièrement importantes dans notre histoire du brigandage, parce que c'est l'unité italienne, Gilles Pécou. Mais il faut rappeler un peu cette histoire de l'Italie, parce que on voit poindre tant et tant de moments, quand vous nous avez dit que l'agitation était propice au brigandage, tant et tant de moments où les brigands ont de quoi se manifester. Cette Italie est divisée, faut le rappeler, en plein d'états. Et dans le sud de l'Italie, on a évoqué Murat, donc le prince Murat, le beau-frère de Napoléon, qui se voit confier le trône de Naples. C'est pas rien déjà, c'est un beau cadeau. Hein.
Oui, ça c'est durant la période française, de la décennie française, c'est extrêmement important, la présence française et la présence de Murat, qui tout en étant réellement là pour représenter l'ordre napoléonien, réussit à obtenir une forme d'autonomie dans l'exercice du pouvoir à Naples. Après 1815, l'Italie est divisée. Après le congrès de Vienne, l'Italie est divisée, on le sait. La péninsule italienne n'est ni unie, ni souveraine, ni indépendante. On pourrait dire schématiquement que coexistent trois groupes de territoires et d'États. Des États souverains et indépendants, qui sont des plus petits États. Du nord au sud, le royaume de Piémont-Sardaigne, avec Turin comme capitale. Au centre, le royaume du pape, les états pontificaux, l'état pontifical qui va du Latium jusqu'à l'Émilie-Romagne, de Rome jusqu'à Bologne et au-delà, et au sud, le grand état des Bourbons, le royaume des deux Siciles. Ça, c'est le premier ensemble. Voilà trois états souverains indépendants. Puis, l'Italie, la péninsule italienne, ce sont aussi des territoires occupés par l'Autriche, la Lombardie et la Vénétie. Et enfin, troisième ensemble, l'Italie, ce sont des États vassaux de l'Autriche, qui ne sont pas occupés, mais qui sont réellement sous la domination, sous l'ordre autrichien, le Grand-Duché de Toscane, et puis les principautés du centre de l'Italie. Quelle est la tâche que l'on va se donner pour unifier l'Italie, et quelle est la tâche surtout que va se donner l'État du Piémont-Sardaigne, qui prend d'une certaine façon la direction des opérations grâce notamment au grand homme d'État et diplomate qu'est Cavour. La double tâche est de chasser les étrangers, donc les Autrichiens de Venise et de Milan, et puis de faire en sorte que soit rattaché les ensembles d'États qui constituent la péninsule. Cela commence en 1859. De 1859 à 1860, c'est la Toscane, c'est bientôt le nord des États du pape avec Milan. Et puis, en 1860, depuis le printemps de 1860, on s'attaque, si j'ose dire, au sud de l'Italie, avec la grande expédition extrêmement connue, extrêmement médiatisée par les écrivains français, qui est l'expédition des chemises rouges de Garibaldi, qui part de Ligurie pour aller en Sicile. Garibaldi, arrivé en Sicile, remonte vers Naples. Et nous sommes là dans un processus qui est le processus de rattachement à la fois militaire et politique, du sud de l'Italie au nord de l'Italie, qui constitue la préfiguration du nouvel État italien. A lieu un plébiscite au mois d'octobre 1860, et ce plébiscite fait que l'ensemble du sud de l'Italie est désormais rattaché au nord de l'Italie, futur État national italien. Et c'est là que commencent les ennuis. Et c'est là que commence réellement à s'élaborer, se forger le mouvement de résistance à l'unité avec le grand brigandage.
Et c'est là que surgit un animal, le guépard.
Et vous, Don Francesco, comment avez-vous voté le 22 octobre ?
Vous savez parfaitement qu'à Donna Fugata, tout le monde a voté oui. On dit même que c'est vous qui avez conseillé aux hésitants de voter de cette façon.
Oui, c'est exact. Alors, vous avez voté oui ?
Non, Excellence. Moi, au moins, j'avais voté non. Non, 100 000 fois non. Oui, je sais, Excellence, je sais bien ce que vous m'aviez dit. La nécessité, l'unité, l'opportunité, et peut-être que vous aviez raison. Mais Francisco Tomeo est un honnête homme. Artiste raté, pauvre et misérable, les pantalons en ruine, mais les bienfaits reçus, moi, je ne les avais pas oubliés. Vous le savez, Excellence, c'est la reine Isabelle. Une bonbon, quand elle était encore que duchesse de Calabre, qui m'a fait étudier, et qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Organiste de l'église principale, honoré de la bienveillance de votre Excellence.
J'admire votre fidélité et votre dévouement, mais il faut vous rendre compte que le peuple était surexcité par les victoires de ce Garibaldi. Ce plébiscite était le seul et urgent remède contre l'anarchie, croyez-moi. Il fallait bien que quelque chose change pour que tout puisse rester comme avant.
Bert Lancaster, Serge Reggiani, dans le film Le Guépard de Luchino Visconti. Alain Delon n'est pas loin, hein, je vous rassure. Dans Le Guépard, le film, c'est 1963. Ça évoque ces événements de 1860. Simon Sarlin, pour bien saisir ce qui se passe, on l'a évoqué sur ce sud de l'Italie. Il y a ce royaume de Naples confié par Napoléon au maréchal Murat. Ça s'écroule en 1815. Qui sont ces Bourbons dont nous parlons tant, ces Bourbons italiens qui sont là et que il va peut-être falloir chasser pour mettre en place l'unité italienne?
Donc c'est une branche des Bourbons, donc Charles III qui est passé par l'Espagne et qui s'est fait son trône en fait. Il est parti en Italie, on est au XVIIIe siècle, et il conquiert une partie de l'Italie par les armes. Il fonde un royaume qu'il quitte pour retourner en Espagne, et il laisse donc sur place son rejeton, Ferdinand, qui va devenir Ferdinand IV, puis II, puis I. La blague, c'est que ses opposants vont dire il va finir par devenir Ferdinand Zéro. Et donc ces Bourbons fondent un royaume indépendant, c'est le retour d'un ensemble politique dans le Sud, qu'ils vont alors recréer après 1816, après la Restauration, en unifiant donc deux territoires, le royaume de Naples et la Sicile, on peut former un royaume des deux Siciles. Et ce qui est important, c'est de montrer la continuité entre ce royaume des deux Siciles et l'expérience napoléonienne. Ça fait partie, on a souvent l'idée de la restauration comme un retour à l'ancien régime, alors que là, c'est l'exemple d'un ensemble politique qui reprend beaucoup de choses de l'organisation napoléonienne. Et un des traits qui va expliquer la fragilité de ce royaume, c'est justement lié à ses héritages et la construction d'un État qu'on appelle la monarchie administrative, qui récupère beaucoup de la centralisation de l'appareil politique et qui va poser beaucoup de questions de légitimité, notamment liées à la place des pouvoirs locaux et des autonomismes, et qui va expliquer pourquoi ce royaume va finir par en partie, hein, par s'effondrer, et qui rend très difficile de comprendre quelle peut être la nature de l'attachement des populations méridionales avec cet ancien royaume et la dynastie qu'il incarne.
Et c'est ça qui va nous aider à comprendre ce phénomène du banditisme. Gilles Picou, vous nous avez bien dit que cette unification de l'Italie, ce Risorgimento, naît au nord, hein. C'est le royaume de Piémont-Sardaigne. Mais alors, il y a ce problème, parce qu'il y a ce royaume du sud, celui des deux Siciles. Vous avez évoqué un Garibaldi, l'expédition des Mille, etc. Comment ça se construit, cette histoire-là?
Il est... L'unification, comme processus militaire, politique et diplomatique, naît du nord, naît du royaume de Piémont-Sardaigne, de Turin. C'est vrai. Mais il naît du Nord avec le soutien et l'appui d'un certain nombre de membres des élites libérales du Sud. Nous ne devons jamais oublier que la première moitié du XIXe siècle, surtout après 1848, entre 1848 et 1860, durant cette période, un grand nombre de libéraux, patriotes, promoteur véritablement du Risorgimento, c'est-à-dire du mouvement d'éveil national qui doit conduire à l'indépendance, fuit, s'exile du sud de l'Italie pour aller au nord, pour aller en Piémont, pour aller à Turin, pour aller même passant par la Toscane, et donc eux favorisent véritablement l'éclosion de ce mouvement et l'accueil des idées nouvelles dans les élites libérales du sud. Donc, Le mouvement, même s'il est diplomatiquement et militairement imposé du Nord, n'arrive pas greffé de rien dans le Sud. Il reste que certain nombre de membres également, des notabilités, de notables ou de populations, sont très attachés, restent attachés à la dynastie des Bourbons. On se demande bien comment et pourquoi, mais c'est ainsi. Ils restent attachés et ils sont surtout extrêmement liés à un clergé qui n'est pas complètement et totalement rallié à l'unité, même si une partie du clergé se ralliera aux idées libérales et en tout cas considérera que le Piémont peut apporter, l'unité italienne peut apporter une sérénité et un calme qui leur profiteront. Bref, on est dans un contexte très clair où un certain nombre de gens ont préparé depuis le sud l'arrivée des Italiens, des Piémontais, et donc l'unification, mais vont s'affronter avec le reste de leur propre société qui est contraire. Ce qui est très important, parce que ce qui nous laisse penser que le brigandage, le grand brigandage politique méridional, qui est souvent lu, nous y reviendrons peut-être, comme une guerre civile italienne, c'est aussi, comme l'avait montré l'historien Pierre-Yves Manchon, une guerre civile méridionale. Ce n'est pas simplement l'affrontement entre le Nord et le Sud, c'est l'affrontement au Sud entre les partisans des idées nouvelles venues du Nord ou des idées patriotiques, des idées d'unité, et ceux qui sont hostiles. Une forme de réaction aussi, qui a une dimension internationale, que l'on pourra évidemment évoquer, qui n'est pas simplement l'affrontement binaire entre les idées nouvelles venues du Nord et les idées réactionnaires restées au Sud.
Ça va, le panorama est en train de se construire. On commence à saisir hein, comment ces brigands vont s'inscrire dans cette histoire-là. Le légitimisme en armes, histoire d'une mobilisation internationale contre l'unité italienne. Simon Sarlin, c'est l'ouvrage que vous avez publié issu de votre thèse dirigée par...
Gilles Picou,
ici présent, avec ici cette difficulté de saisir le mot de brigandage, de criminalité. Vous l'avez déjà évoqué. Maintenant qu'on a le contexte, nous sommes dans ce mouvement d'unification de l'Italie avec des oppositions particulièrement dans le sud, on l'entend bien. C'est quoi cette criminalité, ce brigandage? Parce que le mot de guerre civile apparaît ici. Alors on se dit, où nous trouvons-nous? Sommes-nous avec des brigands ou avec des gens qui luttent de manière, comme on le ferait pour une guerre civile?
Alors, il y a une complexité du brigandage avec beaucoup d'interrogations dès le début sur la nature des motivations, de ce qui anime, des objectifs qui animent les brigands et une discussion sur leur politisation qui est affichée et qui est réelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de signes qui montrent que les brigands s'emparent d'une forme d'objectif politique. Ça va passer par le fait que des brigands se revendiquent comme agents de la monarchie déchue. Il y a des brigands qui portent des titres. Alors, par exemple, Croc se revendique comme ou Chiavone se revendique comme des généraux de François d'eux. Ça passe par des symboles, hein, le fait de d'arborer la cocarde blanche ou le drapeau blanc, la couleur des Bourbons, par des actions, hein, c'est-à-dire que les bandes, elles vont occuper des localités où elles vont destituer les autorités, rétablir les celles de l'ancien régime, rétablir les portraits du roi déchu, et une violence ciblée qui va s'en prendre aux représentants du nouveau régime et aux grands propriétaires libéraux. Alors, la question, c'est effectivement quelle est la nature profonde ou la sincérité de cet engagement politique ? Une des interprétations, alors qui est donnée par les adversaires du brigandage, c'est de dire qu'il s'agit d'une pure manipulation. C'est-à-dire que les brigands se servent de cet aspect politique comme un paravent pour masquer une criminalité ordinaire, aussi pour engranger des soutiens, obtenir des soutiens des notables royalistes ou de la monarchie déchue. Et puis, on pourrait lire aussi une forme d'opportunisme dans le sens où cette lecture politique, elle permet aussi aux bandes de brigands, et là, dans une guerre de guérilla, c'est essentiel. Le fait d'obtenir le soutien de la population va aussi passer, mais pas seulement, par le fait de se prétendre les représentants de cette hostilité populaire, de ce rejet populaire vis-à-vis de l'État, du nouvel État, et l'hostilité envers les grands propriétaires. Et puis aussi le fait d'attirer dans les bandes une autre composante. Alors, dans les bandes, il n'y a pas que des délinquants professionnels. Il y a aussi toute une partie de la paysannerie qui participe, parfois occasionnellement, parfois qui s'engagent comme brigands professionnels, et aussi les anciens soldats, qui jouent un rôle très important dans le brigandage, qui vont souvent avoir des fonctions de commandement, en raison de leurs compétences et leur expérience militaire, et qui sont des éléments qui sont plus politisés que les chefs de bande issus de la criminalité.
Avec un personnage que vous avez déjà évoqué, nous allons entendre témoignage de brigands, c'est Carmine Croco.
J'avais une petite armée, avec une organisation complète. Un capitaine, un lieutenant, un médecin, des sergents-majors, des caporaux qui tous appartenaient à l'armée bourbonienne dissoute. J'avais 600 soldats de tous les corps, chasseurs, cavalerie, artillerie, voltigeurs, sapeurs, mineurs, grenadiers de la garde et que sais-je encore. Quelle importance qu'ils aient été bergers, paysans, cutéreux. Les armées actuelles ne sont-elles pas composées des fils de la misérable plèbe ? Si je devais choisir entre deux régiments, l'un bourgeois, l'autre de berger ou de paysan, je choisirais toujours le second, parce qu'ils sont habitués au froid, à la faim, au labeur et à la marche. Je ne dis pas que les jeunes gens de bonne famille sont des lâches, non. Dieu me préserve d'une calomnie aussi infâme. Mais je préfère l'homme rude, le rustre, plus facile à dresser, plus prompt à obéir, moins exigeant en nourriture et incapable de critiquer les ordres reçus.
Thomas Beau, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait ce témoignage, Carmine Croco, qui publie « Moi, brigand », traduit en français par « Ma vie de brigand ». Ce personnage est très intéressant. Qui est-il ?
Très. Carmine Croco, qui d'ailleurs est un des brigands qui n'est pas mort, victime de la répression. Nous rappelons qu'il est mort à un âge vénérable, il devait avoir 70, 75 ans dans des geôles, donc il a pu porter témoignage réellement et réfléchir sur son témoignage. Carmine Croc est intéressant parce qu'il est passé par un certain nombre des phases de l'enrôlement militaire, de la guerre. Il a été garibaldien également, garibaldien déchu, comme d'ailleurs son grand lieutenant, Ninkanank, qui était très cruel, considéré comme un bandit féroce, et qui est devenu brigand, parce que lui avait été refusé par l'armée garibaldienne. Donc il y a cette dimension militaire qui était précédemment évoquée, qui est la chose un peu nouvelle par rapport à la figure du brigand romantique du premier 19e siècle, que nous évoquions une dimension militaire, d'armée irrégulière, en quelque sorte, de nation armée, de contre-nation armée par rapport à la nation armée garibaldienne ou à la future nation armée du Risorgimento. Donc, cette dimension, elle est porteuse d'idées politiques. Également, cela a été dit très clairement, contre-révolutionnaire, réactionnaire, anti-étatique, et en tout cas, largement et facilement utilisable par la monarchie des Bourbons. Ce sont les portraits de François II qui sont brandis, cela a été dit. C'est souvent même, non seulement le drapeau blanc, mais l'écusson extrêmement compliqué des Bourbons, qu'il fallait quand même savoir se procurer, pouvoir se procurer. C'est matériel, mais c'est extrêmement intéressant. Ça signifie que tout cela était préparé. Et qu'est-ce qu'on vise quand on est l'armée de brigands qui arrive dans un village de Lucanie, de Basilicate ou de Campanie? On vise les maisons des patriotes locaux, des notables locaux ralliés au nouvel État. On détruit les portraits du roi Victor Emmanuel. On détruit les images de Garibaldi. Et les images de Garibaldi sont très nombreuses dans les campagnes à cette époque. Donc, on a indéniablement des objectifs politiques, quoi qu'on en dise. Ce qui n'empêche pas que ces objectifs politiques vont de pair avec tout ce qui accompagne parfois une armée irrégulière. Une armée irrégulière, ce sont les pillages, les mises à sac. Borges lui-même, donc un étranger espagnol qui rejoint l'armée de Croc, qui a été bien étudiée, eh bien Borges s'émeut de voir que ces insurgés de l'armée de Croc se livrent à des pillages, à des mises à sac, voire à des viols, qui sont, je dis voire, mais très souvent à des violences extrêmement importantes, à des viols, et considérant que tout cela peut nuire à la cause politique. En réalité, cela va de pair et est assumé comme tel.
Au printemps 1860, dans ce mouvement de l'unité italienne, il y a l'expédition des Mille menée par Garibaldi, venu du Nord et qui débarque en Sicile. On l'a entendu dans l'extrait du Guépard tout à l'heure. En octobre 1860, il y a le référendum en Sicile, le plébiscite. Et ces brigands agissent. Moi, je l'entends dans ce que vous dites. Ils sont du côté de la monarchie. Est-ce qu'on peut dire, Simon Sarlin, que ces brigands sont contre l'unité italienne, sont du côté des Bourbons, donc de la monarchie, sont réactionnaires? Est-ce que c'est l'image qu'on a véhiculée d'eux ou c'est ce qu'ils sont réellement?
Alors, c'est une question qui est complexe, comme on vient de le dire, avec cette réflexion sur la politisation. Ce qui me semble important, c'est de remarquer que l'apparition du brigandage, donc définie comme la présence de des bandes armées suffisamment nombreuses et organisées pour tenir sous contrôle des territoires et qui poursuivent des objectifs de lutte contre l'État, elle se fait donc dans une phase qui va de l'automne 1860 au printemps 1861, qui coïncide avec le processus de création, de l'intégration du Sud dans ce qui va devenir l'État unitaire. Et la date du plébiscite, donc on est fin octobre 1860, et joue une date charnière. Alors il y a déjà des choses qui se jouent auparavant. Donc vous avez rappelé l'avancée triomphale de Garibaldi qui l'amène donc de la Sicile à Naples en quelques mois, qui repose sur l'adhésion des populations qui vont soutenir, se révolter et soutenir les troupes garibaldiennes, qui vont constituer une grande partie des troupes garibaldiennes. Mais déjà en septembre, les choses commencent à changer. Dans le nord du pays, il y a des phénomènes de résistance organisée. Alors, parce que c'est lié à la présence des troupes royales, c'est lié à des conditions socio-économiques qui sont un peu différentes. Et ce qu'on voit en octobre, notamment à la tenue des plébiscites, c'est cette extension du mécontentement, qui va se traduire par des protestations contre la tenue des plébiscites, un peu partout, sauf en Sicile. Il faudrait revenir sur cette opposition entre le Midi continental et la Sicile, qui marque le début de ce climat insurrectionnel dans lequel on a une double dynamique. On a des révoltes dans des bourgades, des révoltes spontanées, et la multiplication ou la croissance des bandes qui existent souvent par ailleurs, et les deux sont liés. C'est-à-dire que la répression des révoltes pousse des individus à rejoindre les bandes, et les bandes, à leur tour, vont jouer un rôle dans les révoltes. Ensuite, il y a un mouvement de pause au cours de l'hiver, parce que le brigandage est un phénomène saisonnier, qui va revenir, donc se réveiller au printemps, avec là un phénomène d'explosion, avec cette même dynamique, révolte et extension des bandes, qui vont parfois atteindre des tailles très respectables, d'un millier, de 2000 hommes. La bande de Croc est une des plus importantes, elle compte environ 2000 hommes, et qui va donc voir la transformation du climat insurrectionnel en véritable guerre. Le brigandage joue un rôle essentiel et on peut se demander effectivement qui instrumentalise l'autre, sans doute un peu des deux.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que l'aspect militaire de guerre réelle des brigandages est essentiel. même comme guerre classique frontale. Certes, on retient surtout la guérilla, la petite guerre, le harcèlement, les attaques, l'assaut. Mais le brigandage entre 1861 et 1864, après ce sera plutôt la guérilla, mais à ce moment, nous avons de vrais épisodes d'affrontements militaires frontaux. Cela se produit également, avec pillage, incendie, alors qui font que le reste, on préfère toujours le harcèlement, l'embuscade à la baïonnette. Mais il y a aussi des assauts à la baïonnette, ce que l'on avait méconnu longtemps.
Ah oui, là on a presque une armée qui se
présente. Oui, ce sont des armées aussi. Ouais,
alors je nuancerai parce qu'on est toujours dans le cadre d'une guerre de guérilla, d'une guerre de partisans, dans laquelle les principes sont qu'on ne va à l'affrontement que quand on est sûr de gagner.
Et repose
en grande partie sur la mobilité de ces bandes qui se rendent dans des postes très rapidement, des lieux qui sont peu gardés et puis qui en partent aussi très rapidement. Les occupations de localité, elles durent peu longtemps, elles durent quelques jours. Alors ce qui va changer effectivement, c'est l'état des forces. On a à un certain moment donné, entre 1861 et peut-être 1863, parfois des grosses bandes, pas toutes, qui ont des capacités militaires, des organisations militaires qui leur permettent à l'occasion d'aller vers l'affrontement avec les gardes nationales ou les troupes, qui fait qu'effectivement on a cet aspect de guerre, et ça va basculer dans la chronologie de brigandage à partir de 1862 et jusqu'en 1865 dans un contexte qui change parce que c'est l'augmentation des forces de la répression et des techniques de la répression qui vont faire que il y avoir une adaptation de la guérilla avec une réduction de la taille des bandes, leur fragmentation, la bande des occupations de lieux et l'évolution effectivement vers une guérilla de type plus classique et puis de plus en plus vers une forme de criminalité.
Ce qui fait évoluer les choses, n'est-ce pas, c'est que le 15 août 1863 entre en vigueur la loi Pica, qui est une loi d'exception, de répression extrêmement rigoureuse, même considérée comme violente. Et à partir de ce moment, eh bien, la guerre du brigandage ne peut qu'être guerre de guérilla, que petite guerre, puisque la répression liée à la Lege Pic, à la loi Pic du 15 août 1863, c'est une répression véritablement massive.
Répression massive, avec une figure ici qui apparaît, c'est celle du carabinier 1869, les brigands d'Offenbach.
C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes des carabiniers,
les bottes des carabiniers.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Thank you.
les carabiniers qui arrivent toujours trop tard chez Offenbach dans Les Brigands, avec en 1869 Offenbach qui reprend ce que vous nous expliquiez, Gilles Pécou, hein, cette figure du brigand romantique. Donc lui, il en est là, il n'y a aucune allusion à l'actualité. Les Brigands d'Offenbach, ça se passe au nord, ça se passe à Mantoue. L'Italie, une frontière avec l'Espagne dans Les Brigands, donc la géographie est un petit peu chamboulée. C'est intéressant à voir comment cette image du brigand italien demeure au même moment où d'autres au sud combattent. Il y a comme un décalage ici temporel entre les représentations et puis l'actualité politique.
Oui, ça c'est indéniable, tout en considérant malgré tout le brigand méridional italien occupe peu à peu le devant de la scène dans la littérature, dans l'opéra. Alors, c'est vrai que de 1840 date déjà l'opéra Le Brigand Calabré, mais enfin, cela pour dire que malgré tout, derrière la figure générique du brigand, du bandit italien, il y a toujours la figure particulière et spécifique du brigand du Sud, du brigand avec tous les ethnotypes liés au méditerranéen, à tel point d'ailleurs que dans la littérature coloniale française, on met l'accent sur la parenté qui lie l'agitation, l'insurrection des deux côtés de la Méditerranée, en Algérie et en Sicile et au sud de l'Italie, en considérant qu'on est là typiquement dans une espèce de communauté ethnique même. Cela est dit ainsi. Du reste, pour les Italiens également, à l'époque, l'idée, l'urgence en 1861, c'est de mettre fin à l'état de guerre endémique dans le sud de l'Italie. Cavour, sur son lit de mort, aurait eu comme propos, on les lui prête, en tout cas, ils sont rappelés très, très, très souvent, en juin 1861, Cavour aurait dit « Mettons fin à la guerre dans le sud, mettons fin... » Alors, en disant « Ce n'est pas de la faute des méridionaux, ils ont été si mal gouvernés. » Ce n'est pas de la faute des méridionaux, c'est la faute des Bourbons. N'empêche que ce sont les méridionaux qui sont caractérisés de barbares. Donc, il y a toujours, néanmoins, cette image. Se superpose donc vraiment au-delà de l'aspect militaire qu'on a évoqué, l'aspect politique et l'aspect ethnologique. Très, très clairement.
Oui, le bandit calabrais qu'on va retrouver chez Alexandre Dumas, etc. Exactement. Eh bien, il est là.
Il est là.
Avec une répression qui est bien loin de ces carabiniers évoqués par Offenbach, oui, qui arrivent toujours, toujours trop tard. C'est extrêmement violent ce qui se passe. Cavour meurt en 1861, c'est-à-dire au moment de l'unification, oui, de l'Italie.
Oui.
C'est une véritable guerre, Simon Sarlin. On peut le lire ainsi, avec eh bien, du côté de la monarchie des Bourbons et de ceux qui s'opposent à l'unité italienne, une force considérable représentée par les brigands. Ils peuvent s'appuyer sur ces brigands.
Et en tout cas, ils veulent le faire.
Ils veulent le faire.
Il y a cette idée qui apparaît très rapidement d'utiliser la guérilla pour au service d'un projet de restauration qui va passer par des formes d'encouragement. C'est ce que j'ai étudié dans ma thèse. Et qui va devenir aussi central dans le discours politique sur le brigandage, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant ces incitations extérieures pour expliquer la révolte et pour justifier la répression. Alors, dans la réalité, la rencontre se fait difficilement. Et alors, si ces encouragements existent, ils ont joué sans doute leur rôle, notamment sur les régions frontalières. Mais la manière dont se passe la rencontre entre les partisans, les agents de la monarchie déçue et les brigands se passe mal. Je prends deux exemples de rapports entre des volontaires étrangers, donc qui s'engagent au service de François II et qui sont envoyés dans le sud de l'Italie pour prendre le commandement des bandes. Donc il y en a deux grands. Il y a Borges, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est espagnol, qui s'est a été un officier de l'armée carliste, donc légitimiste espagnol, et donc qui va rencontrer Croco en Basilicate, on est en 1861, et Tristagne, lui aussi espagnol, lui aussi officier carliste, qui est envoyé dans les Abruzzes en 1862. Et les deux se retrouvent dans une position très inconfortable et de conflit avec les bandes parce qu'ils arrivent avec des objectifs et une manière, une idée de la conduite de la guerre qui ne correspond pas. Ils veulent transformer la guérilla en guerre, avec des objectifs politiques, et une organisation, on va dire, régionale, avec des objectifs qui sont définis par des objectifs politiques, enfin, des stratégies qui sont définies par la politique. Et les chefs de bande s'y opposent, et ça va produire des conflits qui vont se traduire différemment. En Basilicate, ça se termine au détriment de Borges, qui va être abandonné à son triste sort par Croco, et Borges va devoir s'enfuir, il va presque y arriver, mais il va être capturé à la frontière avec l'État pontifical, et exécuté par les autorités italiennes. Et
par la garde nationale. Il est capturé par la garde nationale. Ce qui veut dire qu'il n'est pas capturé par les piémontais.
Non, mais il est exécuté par un détachement de Bersaglier. Oui. Bon, on pourra revenir sur ces gestions. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des témoignages partagés des deux côtés, de Croco et de Borges, qui mettent en scène leur vision très différente. Dans le cas de Tristagne et de Chiavone, c'est là le volontaire étranger qui l'emporte. Il arrive à se débarrasser, il fait vraisemblablement assassiner Chiavone, mais ça ne marche pas puisque à la mort du chef de bande, la bande se disperse et Tristagne finit assez rapidement par abandonner la partie.
Ils veulent pas cette autorité-là qu'on leur impose avec peut-être aussi des règlements que ces brigands ne veulent pas appliquer, des règlements militaires.
Alors, il y a la question des rivalités personnelles, sachant que ces bandes, elles sont largement fondées sur l'autorité charismatique du chef de bande. Il y a des questions aussi qui sont liées à la conduite même de la guerre. Et on pourrait dire que si on devait dire qui a raison dans l'histoire, c'est plutôt les chefs de bande qui savent très bien quelles sont les conditions dans lesquelles on peut mener une guerre de guérilla et qui opposent au plan des légitimistes extérieurs une impossibilité. C'est-à-dire l'idée de transformer cette guerre de guérilla en véritable guerre, elle a très très peu de chances d'aboutir. Il y a d'ailleurs un historien légitimiste qui écrit une histoire du royaume des Deux Siciles qui va jusqu'aux années 1860, bon, qui s'appelle Giacinto dei Sivo, qui écrit donc au milieu de la décennie et qui fait un bilan de ce qui s'est passé. Donc il sait que le fin de l'histoire, que le brigandage à son époque est déjà en train de décliner, et qui donne raison au chef de bande en disant que cette idée de passer de la guerre de guérilla, ce qu'il appelle la guerre fragmentée, à la grande guerre, était une illusion en fait.
Et je me demande si cela ne traduit pas de façon plus générale un phénomène qu'on observe pour toutes les guerres du Risorgimento et également au XIXe siècle pour d'autres guerres nationales, c'est que la guerre irrégulière, parce qu'elle a existé, pas seulement chez les brigands, mais les volontaires garibaldiens, c'est aussi la guerre irrégulière ne fonctionne et ne réussit que là où elle sert une diplomatie claire et nette. Et là, le seul espoir de restauration des Bourbons, il eût été diplomatique, c'est tout. Donc c'était, comment dire, voué à l'échec dès le début, nous savons bien, parce que les Italiens, pour le processus unitaire et les Piémontais, ont utilisé aussi des troupes irrégulières. Les Garibaldiens, je ne dis pas que ce sont rien à voir avec le brigandage, mais enfin, ce sont des troupes irrégulières qu'il a fallu discipliner. Ben, il a fallu discipliner parce qu'on a réussi à les discipliner, à canaliser une armée irrégulière. Là, c'était impossible parce que vous le savez, vous l'avez étudié, nous le savons, le royaume des Deux Siciles, il était abandonné diplomatiquement par toutes les puissances qui auraient pu le sauvegarder. Et donc, c'était fichu.
Les Bourbons des Deux Siciles, là, sont un peu seuls en exil. C'est cet exil que vous avez étudié, hein, Simon Sarlin, avec cette volonté de s'approcher des brigands, mais ça ne fonctionne pas. Juste pour y voir plus clair, moi je vous propose qu'on envoie un reporter sur place. Nous sommes en 1862.
Dans la longue conversation que j'eus avec Chiavone, je pus me convaincre d'une chose, c'est que Chiavone n'est rien moins que dévoué à son roi. C'est un paysan qui, ayant été soldat, a pu apprécier combien il était doux de commander au lieu d'obéir. Son premier soin, quand il a été appelé à jouer le rôle qu'il remplit depuis un an, a été de se faire faire un uniforme de général avec des galons d'or. Il porte des bottes et des éperons, et il a une cravache. Ainsi, Chiavone a pris le titre de général en chef des armées de François II. Tous ses hommes l'appellent aveuglément général. J'ai revu une dernière fois Chiavone, blessé à l'épaule gauche. Il ne peut comprendre comment les Français, qu'il avait toujours laissé tranquille, le poursuivent aussi obstinément depuis quelques jours. Je lui ai promis, s'il se faisait tuer pendant mon séjour dans ces provinces, de faire un autre portrait de lui, mort.
Raphaël Laloum, qui était en reportage en Italie en 1862, mais en tout cas, qui nous lisait cet extrait de l'illustration, du journal L'Illustration, le 11 janvier 1862. Intéressant, là aussi, de voir l'intérêt que l'on porte sur ce qui se passe en Italie. Vous l'avez dit, c'est une histoire internationale. Oui. D'ailleurs, Simon Sarlin, ce mot international, ça apparaît dans le titre de votre ouvrage. Oui.
Alors, cet extrait, il est intéressant, je le connais bien. Le journaliste qui se rend en Italie du Sud pour interviewer Cavone, c'est Charles de la Varenne. Alors, qui n'est pas un bourbonien, c'est quelqu'un qui se définit comme libéral, qui a soutenu Garibaldi, et qui est envoyé comme correspondant pour les grands journaux européens, avec des conditions un peu rocambolesques. On a des sources là-dessus, parce qu'il se fait un peu arrêter par les autorités locales qui le prennent pour un farfelu. C'est quelqu'un qui voyage avec 14 caisses de matériel, un peintre, des photographes, pour aller, et il va finir par y arriver, pour aller interviewer Cavone, et le reportage paraît avec une illustration de Cavone. Et ce qui traduit l'intérêt des grands journaux européens pour ce qui se passe en Italie du Sud, qui se manifeste un peu partout, par le nombre de correspondances et l'envoi de journalistes, de reporters, on est au début du reportage, pour ce qui se passe en Italie. Alors, avec un intérêt médiatique qui se situe dans le sillage de l'intérêt pour ce qui s'est passé auparavant pour l'unité italienne, qui résonne aussi avec tout ce qu'on a dit sur l'imaginaire des brigands. Donc il y a un aspect un peu sensationnaliste, de goût de l'aventure, dans ce qui est raconté ici dans le reportage, qu'on retrouve en Italie du Nord, qui ont cet aspect un peu d'exotisme appliqué à l'Italie du Sud, et partout en Europe. À ça se rajoute une lecture, on va dire, politique, parce que ce qui se passe en Italie du Sud est lié à plus généralement ce qu'on appelle la question italienne, qui a plusieurs dimensions, qui est liée à la création d'un État national libéral et à la possibilité donc de refonder la carte de l'Europe sur de nouveaux principes qui sont ceux des nationalités, des principes libéraux, et aussi la question religieuse, qui est liée à la présence de la papauté en Italie et à l'idée, encore incarnée à cette époque, d'une souveraineté pontificale. Qui déclenche des passions partout en Europe et donc des prises de position en fonction des différents camps en faveur ou contre l'unité, qu'on va retrouver aussi chez les adversaires de l'unité, ce que j'ai étudié, qui vont s'engager en faveur du brigandage au nom d'un imaginaire aussi. Il y a un imaginaire aussi contre-révolutionnaire de brigandage avec la comparaison, l'assimilation entre ce qui se passe en Italie du Sud et des expériences précédentes, les guerres de Vendée ou le soulèvement espagnol contre Napoléon.
Ah, ces terribles états pontificaux qui enquiquinent ceux qui veulent l'unité italienne.
D'ailleurs, les états pontificaux me font songer qu'il y a deux pays dans lesquelles, et deux opinions publiques dans lesquelles la question italienne est centrale. Elle structure même le débat politique et le débat médiatique depuis la fin des années 1850. C'est la France, comme cela vient d'être dit, en France notamment, avec l'attentat d'Orsini en 1858. À partir de 1858, on ne parle que d'Italie.
Bah, il a voulu tuer l'empereur Napoléon III.
Là, on ne parle que de cela. Et puis l'autre pays, c'est l'Angleterre, tout simplement, qui est le pays de la Garibaldomania, mais qui est surtout un pays dans lequel ces thématiques-là, non pas anti-risorgimentales, mais pro-italiennes, ont une ampleur toute particulière, parce qu'évidemment, quand on se mobilise contre le pape en Angleterre, ça marche, et ça marche bien.
Eh oui, ben c'est parce que c'est ici cette histoire-là qui ne peut être qu'une histoire internationale, avec peut-être le temps maintenant de réfléchir à la fin de ce brigandage. Y a-t-il une fin ? Je mets le point d'interrogation.
L'arrêt sans cloi Pica permettait de garantir la vie sauve et des réductions de peine à ceux qui se présentaient volontairement. La manœuvre fonctionna et Croco accepta de se rendre. Le 7 septembre 1863, il s'avança seul dans Rio Nero, brandissant un drapeau italien et criant « Vive le roi, vive Garibaldi !» Le général Fontana, qui commandait alors Amalfi, eut un premier entretien avec Croco et Volonino, au terme duquel il fut décidé de laisser repartir les différents chefs de brigands, en leur accordant un laissez-passer d'une semaine devant leur permettre de convaincre leurs quelques 250 hommes de se rendre collectivement. Et si Giuseppe Caruso et une quinzaine d'autres brigands décidèrent de se rendre immédiatement, au bout de 8 jours, Croco et les autres chefs ne reparurent pas.
Riyad Kera dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait d'un ouvrage de 1865. Donc on est vraiment avec les effets de cette loi Pica, oui, qui date de 2 ans auparavant. C'est Giuseppe Burelli, hein, qui écrit, oui, sur le brigandage, oui, en Italie. À quel moment ça prend fin, donc, ce brigandage-là, sachant que vous allez me répondre, ça ne prend pas fin.
Ça, enfin, historiquement, on considère qu'à la fin de la décennie, le grand brigandage, tel qu'on l'a connu sous cette nature, a pris fin. Donc, je sais que ce n'est pas exact, parce que des brigands, il y en a toujours, et surtout des brigands qui revendiquent un mot d'ordre politique. Il y en a jusque dans les années de la monarchie libérale. Mais le grand brigandage, comme phénomène massif, comme phénomène lié à l'image d'une guerre civile, cela prend fin à ce moment. Et on a considéré, d'ailleurs, que le brigandage était ensuite relayé par tout ce qui transporte l'importance de la question méridionale, par tous les vecteurs de méridionalisme. En 1875, un grand historien italien qui a été ministre de l'Italie unifiée, Pasquale Villari, publie ses lettres méridionales, dans lesquelles il considère que c'est fini avec le brigandage, mais que l'État piémontais et l'État italien, dont il se revendique, n'a quand même pas fait tout ce qu'il devait faire, et que va surgir véritablement une vraie question et un vrai problème méridional. Donc, je dirais que... Et Alexandre Dumas lui-même, puisqu'on parlait de médiatisation, considère que le brigandage se poursuit à travers les phénomènes assimilables à la mafia avec la Camorra.
Oui, parce qu'il y a de ça ici, hein, la mafia naît dans ces années-là également, donc on peut les associer sur la chronologie. Ce sont des phénomènes que l'on doit distinguer complètement, ou alors est-ce qu'on peut y voir ici... Ah, vous me faites nom de la tête.
Non, alors c'est effectivement une idée assez répandue pour expliquer l'origine de la criminalité organisée en lien avec le brigandage, alors que c'est deux phénomènes qui sont vraiment très différents. Vous rappelez la différence entre la criminalité rurale et la criminalité, oui, urbaine. Le brigandage est un phénomène qui est essentiellement rural, même s'il affecte les villes. Là où il y a une parenté, c'est sur les techniques de répression. On l'a rappelé. Les mesures législatives ou les moyens employés pour la répression du brigandage servent aussi à la répression de la criminalité. Et il y a, c'est vrai, aussi une crainte d'une conjonction à la fois des criminalités et une conjonction de la criminalité avec les oppositions politiques. Là, qui anime vraiment, c'est une obsession des États du 19e siècle.
Oui. Et c'est notre obsession à nous aussi dans le cours de l'histoire, cette histoire du brigandage. Merci vivement à tous les deux à nous avoir éclairés, parce qu'il y en avait besoin, hein, rappeler le contexte, mettre tout en place pour saisir la complexité de ce phénomène-là. Merci vivement. On retrouve vos bibliographies sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Gilles Pécou, votre histoire de l'Italie. Simon Sarlin, cette histoire du légitimisme en armes. Merci vivement à tous les deux. Dans le cours de l'histoire, 4 épisodes à écouter. Un des brigands antiques, mais pas en toque, de Robin des Bois, de Mandrin Cartouche et de toute la bande. Et bien sûr, ces bandits italiens. Alors pour finir, un petit clin d'œil aux 3 brigands, ceux de Tommy Ungerer.
Le premier avait un tromblon. Le deuxième, un soufflet. Qui lançait du poivre. Et le troisième, une grande hache rouge. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Et les hommes, les plus courageux, prenaient la poudre d'escampette.
Fantastique, Tommy Ungerer dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck. Aujourd'hui, la technique, François Saint-Jour. Émission préparée par Raphaël Alloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Maëlle Vincent Redonnier et Maïgwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.